Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons vu la dernière fois la vertu de pénitence. Seulement pour que cette pénitence soit parfaite, ce qui se fait par la grâce de Dieu, par son amitié qu'il rend en donnant le pardon, il faut au préalable que le pénitent ait posé les actes qui le mettent sur la voie et qui permettent à Dieu de lui donner le pardon. Dieu, en effet, je vous l'ai déjà expliqué en vous parlant de la différence entre la pénitence catholique et la pénitence protestante, c'est-à-dire entre la vraie pénitence et la fausse pénitence des protestants. Dieu, en effet, ne veut pas donner son pardon et son amitié à quelqu'un qui ne se repent pas. D'ailleurs, il ne pourrait pas le donner. Il peut tout faire en sens qu'il peut faire revenir un pécheur à de bons sentiments, mais il ne peut pas donner son amitié à quelqu'un qui demeure dans les mauvais sentiments. Ce serait contradictoire. Encore plus contradictoire qu'un cercle carré. Par conséquent, ce qui dominait et ce qui expliquait la vertu de pénitence achevée, parfaite, c'était l'amitié. Et cela donnait raison des effets de la pénitence, ces effets merveilleux, le pardon des péchés, la remise de la peine, la restitution de la charité, de la grâce, etc. Mais ce qui domine et ce qui explique et donne raison de la contrition, ce n'est pas la charité, mais la justice, la vertu de justice dans la réparation et donc dans la pénitence. Et si on n'a pas compris cela, on ne peut pas comprendre la contrition. Si on ne veut voir que la contrition achevée avec la charité et qu'on oublie la justice, on ne peut pas comprendre. Le Concile de Trente, dans son catéchisme, nous enseigne en effet que l'essence de la contrition ne consiste pas seulement à cesser de pécher, à prendre la résolution de mener une vie nouvelle, ou même à commencer déjà une vie nouvelle, mais encore et surtout à détester et à expier le mal de la vie passée. À détester et à expier. Par conséquent, il y a pour arriver à la plénitude et à la perfection de la pénitence, trois étapes. La première, la contrition. La deuxième, la confession. La troisième, l'absolution. Et nous allons parler aujourd'hui de la contrition, qui est la première étape pour arriver jusqu'au bout. Ce qui dominait, je vous l'ai dit, la vertu de pénitence, c'était l'amitié. Ce qui domine et ce qui explique la contrition, c'est la justice envers Dieu offensé. Et là encore, on a quelque chose de très important que les modernistes, et c'est pas seulement les protestants cette fois-ci, que les modernistes ont voulu occulter en ne parlant plus que de miséricorde. Ils ont fait du sacrifice eucharistique un sacrifice de pure miséricorde et non plus un sacrifice expiatoire pour le péché. Du coup, le pénitent n'a plus à s'associer à une œuvre expiatoire puisque on l'a fait disparaître et il n'a qu'à croire à la bonté de Dieu. Et puis on en a un autre exemple avec la disparition des jours de jeûne qui sont réduits à 2 alors qu'autrefois ils étaient plus de 50 dans l'année, etc., etc. Enfin, nous voyons bien que dans l'Église aujourd'hui, la justice envers Dieu, le sens du péché, a en grande partie disparu. Quelle est la définition de la contrition ? Saint Thomas nous la donne, c'est une douleur voulue de nos péchés, jointe à la résolution de nous confesser et de donner satisfaction. Pourquoi donne-t-on ce nom à la contrition ? Contrition veut dire broyer. Briser veut dire casser en gros morceaux, mais contrit, le terme existe en français ancien, contrit veut dire broyer. Pourquoi cela? Parce qu'on ne parle de contrit que pour quelque chose de dur qu'il faut réduire, complètement réduire en miettes. Or, la volonté qui adhère au péché se durcit dans son orgueil. Et le seul moyen pour elle de sortir de cet orgueil, c'est de s'humilier et de réduire en miettes la volonté propre, c'est-à-dire la volonté du péché. Et après cela, une fois que la volonté du péché est réduite en miettes, alors Dieu peut reconstruire la charité. Donc, la contrition est essentiellement dans la volonté qui regrette le péché et qui sort du péché, mais qui en sort, comme je vous l'ai dit, en cherchant à réparer. Et par conséquent, la contrition va se trouver également dans la sensibilité par les œuvres de pénitence. C'est-à-dire que la volonté pour réparer le péché va provoquer aussi une douleur sensible. Certes, la contrition est essentiellement dans la volonté et accessoirement seulement dans la sensibilité. Seulement, cet accessoire compte puisque le péché a été une adhésion à la créature, le pécheur a profité de la créature de façon indue, il faut donc qu'il rétablisse la justice et qu'il se prive volontairement de la créature satisfaisante. Vous remarquerez que la douleur sensible n'est pas essentiellement une douleur spontanée. Beaucoup de pénitents pensent qu'ils n'ont pas la contrition parce qu'ils ne pleurent pas physiquement leur péché. Cela peut arriver et cela peut aider. Mais étant donné que la contrition est une œuvre de la volonté, de la justice qui revient vers Dieu, qui répare, la douleur sensible est surtout celle qui est voulue. Sur quoi porte la contrition? Elle porte sur tous les péchés et sur chaque péché en particulier. C'est-à-dire que chaque péché doit être regretté et détesté et réparé. Saint Thomas est très précis sur les péchés oubliés. Il y a des péchés qui ne sont oubliés que confusément. Et à ce moment-là, on a le devoir de se les rappeler à la mémoire, de faire l'effort de se les rappeler à la mémoire, de façon à les regretter et les détester un par un, chacun en particulier. Deuxièmement, dit saint Thomas, si malgré cet effort, le péché demeure confus, à ce moment-là, on doit le regretter tel qu'on le connaît, et en même temps, regretter cet oubli qui est la preuve d'une négligence, qui montre que le péché n'a pas été pris au sérieux, et troisièmement, pour les péchés qui sont complètement oubliés et qu'on ne peut pas faire revenir à la mémoire parce qu'on en a plus l'idée du tout. Ils sont pardonnés malgré tout. Et pourquoi cela? En raison de ce que je vous ai dit au début. Œuvre de justice, il faut que chaque péché soit détesté. Lorsque cette œuvre de justice est parfaite, elle fait entrer dans l'amitié de Dieu. Et cette amitié restitue la communauté de bien avec Dieu et fait donc disparaître ce qu'il y avait encore de mauvais et qu'on ne pouvait pas réparer. Or, un péché complètement oublié ne peut pas être réparé. Par conséquent, cette amitié restitue la grâce et donc efface les péchés même oubliés. Mais vous avez vu avec saint Thomas, donc, que celui-ci demeure exigeant, à savoir que, dans toute la mesure du possible, la justice doit être accomplie avant la miséricorde, et que chaque péché en particulier doit être détesté. Quant aux péchés futurs, on ne peut évidemment pas en avoir la contrition. Parce que le péché est volontaire, la contrition est volontaire elle-même, en sens complètement opposé, donc ça serait contradictoire, ou bien on veut commettre le péché et on n'a pas la contrition, ou bien on ne veut pas commettre le péché et il n'y a pas besoin de contrition. Mais l'homme se connaît faible, et par conséquent, la contrition par rapport à l'avenir consiste à se mettre en garde et à prendre tous les moyens pour ne pas retomber. Et ça, c'est ce qu'on appelle le ferme propos, c'est un élément indispensable de la contrition. Celui qui détesterait le péché, mais ne prendrait pas des moyens réels pour ne pas retomber, montrerait qu'il ne déteste pas vraiment le péché. Il regrette vaguement, plus ou moins, en partie, mais pas complètement, pas avec la volonté de rétablir et de vivre dans la justice. C'est un élément très important pour les péchés dans lesquels on retombe, hélas, plus ou moins souvent. Il y a certains péchés de faiblesse, notamment de faiblesse de la chair, qui laissent une blessure profonde, surtout lorsque ces péchés ont été répétés, une blessure profonde qui fait qu'il est difficile de ne pas retomber dans le péché. Alors il faut savoir malgré tout qu'on peut très bien, malgré cette blessure, sortir complètement et définitivement du péché en faisant appel à la grâce de Dieu, en suppliant Dieu, en prenant les moyens. Alors les moyens, c'est d'abord la pénitence, les œuvres de pénitence qui guérissent la blessure. C'est deuxièmement l'éloignement de l'occasion de péché, et troisièmement, la supplication envers Dieu, dont la grâce est toute puissante. Grâce à cela, la contrition est sincère, même s'il y a d'autres chutes, et même si on pouvait plus ou moins prévoir qu'il y aurait d'autres chutes. Par contre, celui qui retombe dans le péché parce qu'il n'a pas pris les moyens d'éviter le péché prouve par là que sa contrition n'était pas sincère. Là encore, il y a une remarque à faire. Sous l'influence du laxisme moderne, les prêtres ont tendance à ne pas faire cette distinction et à donner indistinctement l'absolution aux péchés qui furent détestés et contre lesquels on a pris des précautions, et malheureusement le pécheur est retombé, Et cela mérite l'absolution. Et ne distingue pas des péchés qui n'ont pas été vraiment regrettés parce que le pécheur n'a pas pris les moyens de sortir du péché. Et on arrive à ce drame, notamment chez les adolescents, qu'on ne fait pas très attention à ce qu'ils aient une véritable contrition. On les entretient par conséquent dans une illusion, et à force de donner l'absolution à des péchés qui n'étaient pas vraiment regrettés, on ne fait qu'augmenter la blessure. Et il y a certainement des confesseurs qui sont coupables, gravement coupables, d'une fausse indulgence. Évidemment, c'est difficile parce qu'il ne faut surtout pas décourager le pécheur. Mais tout en ne le décourageant pas, il faut lui rappeler la nécessité non seulement de changer de vie, mais de prendre les moyens pour ne pas retomber et de faire les œuvres de pénitence. Si le pécheur a fait cela, même s'il est gravement retombé, il mérite l'absolution. S'il n'a pas fait cela, alors c'est qu'il n'avait pas la contrition. Quelle doit être l'intensité de la contrition? Il faut que je fasse attention pour ne pas dépasser le temps que je me suis imparti. La contrition est la plus grande douleur qui soit, non pas la plus grande douleur sensible, bien entendu, mais la plus grande douleur dans la volonté. Pourquoi? Parce que le péché fait perdre le bien souverain, le bien infini, et par conséquent, il faut que la pénitence soit à la mesure, le regret, je parle de la pénitence intérieure, parce que la pénitence extérieure peut jamais être infinie, et au maximum, ça n'est pas possible. Mais la pénitence intérieure doit être au maximum à la mesure de la gravité de la situation. Certes, il y a une joie qui accompagne la pénitence, comme toute œuvre vertueuse met dans la joie, mais cette joie non seulement n'empêche pas la pénitence, mais même elle l'augmente, parce qu'elle augmente le sens du péché en augmentant l'amour de Dieu. Et par conséquent, elle augmente la contrition. Et on arrive à ce paradoxe que seuls les grands saints, qui, s'ils furent des pécheurs au début de leur vie, seuls les grands saints ont une contrition à la mesure du péché. Et les petits saints, ceux qui viennent de revenir à Dieu, ont une contrition réelle, mais bien faible malgré tout. La contrition doit durer toute la vie. La contrition intérieure doit durer toute la vie. Toute la vie, on doit regretter le temps perdu, les œuvres omises qui auraient porté du fruit. Bien sûr, vous allez me dire, Dieu, en rendant la grâce, peut remettre le pénitent dans un état meilleur qu'avant le péché. Mais cet état aurait été encore meilleur s'il n'y avait pas eu le péché. C'est une évidence. Et on regrette d'avoir fait de la peine à Dieu, même si Dieu a pardonné. C'est comme avec un ami, on n'en parle peut-être plus, n'empêche qu'on regrette le mal qu'on lui a fait. Et dans la sensibilité, de même, les œuvres de pénitence doivent durer toute la vie, parce que la peine éternelle a été commuée en peine temporelle, c'est-à-dire limitée, mais c'est évident, le pécheur doit faire tout ce qu'il peut pour réparer, même s'il a été pardonné. Bien entendu, cette pénitence doit durer toute la vie avec l'intensité qui convient. Il n'est pas question de faire la pénitence maximum toute la vie, même si on lit dans la vie de grands convertis qu'ils ont fait de grandes pénitences toute leur vie. Mais même si la pénitence doit être modérée, elle doit durer toute la vie. Quelle est la mesure de cette pénitence extérieure? C'est celle qui favorise l'amour de Dieu, celle qui permet, tout en faisant pénitence, d'accomplir tout ce que Dieu demande. Je suis persuadé, mes bien chers frères, qu'il y a un gros travail à faire pour retrouver le sens du péché, qui est la condition pour comprendre l'importance de la contrition et donc des œuvres de pénitence. On n'en a plus l'habitude, nous avons été influencés par notre époque. Le résultat, c'est qu'il y a une négligence dans l'éducation, les parents ne faisant pas suffisamment attention à la justice envers Dieu, donnant une éducation sous prétexte d'amour qui n'est pas une éducation réellement juste, préoccupée de justice. Du coup, les enfants et les adolescents n'ont pas suffisamment le sens du péché, et on arrive à ce drame d'avoir une jeunesse très molle, très faible, qui retombe facilement dans le péché et qui manque beaucoup de générosité. Parce que s'il n'y a pas une vraie pénitence, il ne peut pas y avoir de vraie charité. Aristote, philosophe païen, avait déjà compris et enseigné qu'il ne peut pas y avoir d'amitié sans justice préalable. Et si la charité est si faible aujourd'hui chez nos jeunes, cela vient en grande partie de ce qu'on prétend leur donner l'amour de Dieu sans avoir développé la vertu de justice. Et comme je viens de vous le dire, l'amitié sans la justice n'est pas possible, ou alors elle est très faible. Voilà pourquoi également on a peu de vocation, parce que si on n'a pas le sens du péché, on ne voit pas le drame des pécheurs nombreux qu'il faut sortir du péché. On croit que cela se fait tout seul, et donc on ne voit pas la nécessité de consacrer sa vie à sortir le pécheur du péché. Et puis également, il y a peu de vocation parce que quand la justice envers Dieu est faible, je vous l'ai dit, l'amitié est faible. Et donc s'il y a peu d'amitié, évidemment, on ne consacre pas sa vie à Dieu. Demandez beaucoup à la Très Sainte Vierge. Méditez le Stabat Mater. Méditez le Stabat Mater. Demandez beaucoup à la Sainte Vierge qu'elle vous donne la vraie pénitence, la vraie justice, la vraie contrition. C'est un moyen absolument nécessaire pour parvenir à la plénitude de la joie de la charité, et notamment de la joie pascale. Si vous lisez et méditez le Stabat Mater, vous verrez que dans la première partie, on s'apitoie avec la Sainte Vierge, c'est-à-dire qu'on se rend compte combien la Sainte Vierge a souffert pour nous. Dans la deuxième partie, on lui demande d'imprimer profondément dans notre cœur les plaies de Jésus crucifié, et on insiste lourdement en demandant qu'elle nous mette au pied de la croix, qu'elle nous enivre du sang de Jésus. Et dans les trois dernières strophes, alors nous pouvons exprimer à la Sainte Vierge notre prière, qui est en même temps une certitude qu'elle intercédera pour nous au jour du jugement et au jour de la mort. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.